je vous remercie beaucoup pour ces propos. Ils vont être complétés donc par Audrey Bayle, qui est chargée de mission régionale Occitanie à la délégation Garonne et Rivière d'Occitanie pour l'agence de l'eau Adour-Garonne, donc qui accompagne les projets notamment en centre-bourg. Donc la question de la gestion de l'eau qui est au centre des débats et qui est aussi un haut potentiel pour l'amélioration de la qualité architecturale et paysagère.
Oui, merci. Bonjour à tous. Donc en effet, je vais vous parler un petit peu aujourd'hui de la gestion intégrée des eaux pluviales, donc qui est une nouvelle approche, on va dire, pour traiter et gérer au mieux les eaux pluviales. Je vais essayer de repartir un petit peu du contexte. Pourquoi cette nouvelle approche? C'est le changement climatique qui a amené à réfléchir autrement. On sait qu'avec ce changement climatique, on va avoir une augmentation de température d'au minimum 2 degrés. Et associé à cette augmentation de température, on va avoir une modification importante du régime des précipitations avec des périodes d'assec beaucoup plus longues et beaucoup plus intenses, mais des phénomènes de précipitations également énormément plus intenses sur des périodes très courtes avec des quantités de pluie importantes qui vont tomber. Associé à ces deux phénomènes du changement climatique, sur le bassin Adour-Garonne, les études prospectives montrent une augmentation de 1,5 million d'habitants sur le bassin d'ici à 2050. Donc un potentiel d'urbanisation très très important d'ici à 2050 sur notre bassin Adour-Garonne, qu'il faut mettre donc au regard des modifications du changement et du climat qui sont déjà engagées. Cette urbanisation, si on la poursuit telle qu'elle a été faite jusqu'à il y a quelques années, ça veut dire une augmentation de volume à gérer dans des réseaux de canaux, enfin de tuyaux pour gérer l'eau pluviale, qui sont déjà aujourd'hui en partie sous-dimensionnés, qui sont parfois des réseaux unitaires, donc associés aux eaux des habitations, et qui en temps de pluie sont pas en capacité de gérer la totalité des volumes qui arrivent, et donc amènent une pollution très importante dans les milieux. Ça veut dire aussi des phénomènes d'inondation urbains qui peuvent être importants localement, si les réseaux ne sont pas effectivement dimensionnés suffisamment pour gérer les quantités de pluie qui vont tomber, et vu que ces quantités de pluie sont amenées à être de plus en plus importantes sur des temps courts, des augmentations de ces inondations probables. C'est aussi l'enjeu de créer des îlots de chaleur. Aujourd'hui, on le voit, la température augmente fortement dans nos zones urbanisées. On a besoin de recréer des îlots de fraîcheur. J'ai dit îlots de chaleur, des îlots de fraîcheur. C'est quand même mieux. Et de permettre à la biodiversité de s'exprimer au mieux au sein de nos zones urbanisées. L'objectif, c'est aussi d'améliorer le cadre de vie en fait de chaque habitant. Même si voilà, on a des habitants nouveaux qui vont arriver, l'idée c'est de pas continuer à dégrader nos secteurs urbanisés, mais au contraire d'essayer de leur proposer un cadre de vie le plus adapté et le plus agréable possible. L'idée, c'est donc d'essayer de créer des espaces, comme on l'a vu, qui peuvent permettre de gérer ces eaux pluviales, mais aussi de permettre à d'autres usages de s'exprimer sur ces espaces-là. Pour cette gestion intégrée des eaux pluviales, du coup, l'enjeu premier dans les territoires, c'est de pouvoir mettre en place un schéma de gestion de ces eaux pluviales qui va permettre de définir les zones sur lesquelles il est vraiment important de désimperméabiliser ou en tout cas de favoriser l'infiltration de l'eau. Et pour quel type de pluie est-ce qu'on va fabriquer ces nouveaux aménagements et ces nouveaux espaces? Ces nouveaux espaces, du coup, ils ont un objectif à être désimperméabiliser ou, si c'est de la création d'espaces, de ne pas imperméabiliser ces espaces-là. Et l'ambition, c'est effectivement de ne pas concentrer ces eaux pluviales et de leur permettre de s'infiltrer au mieux pour tous les types de pluies sur des zones accessibles à tous et qui vont permettre de laisser s'exprimer un multi-usage de ces zones-là. L'eau va être gérée en surface et plus dans des tuyaux, comme on a l'habitude de le voir aujourd'hui. Aujourd'hui, l'eau de pluie, elle tombe, elle part dans les tuyaux, on l'oublie. Enfin, on l'oublie pour certains, mais pas pour ceux qui gèrent les réseaux. Et l'idée aujourd'hui, c'est qu'on n'oublie pas cette eau de pluie qui tombe, mais qu'elle serve et qu'elle soit bénéfique au territoire. De gérer mieux ces eaux, ça va permettre de créer des zones de végétalisation importantes, et donc de biodiversité, de ramener de la biodiversité au milieu des zones urbanisées, de végétaliser et donc de développer ces îlots de fraîcheur dont on a parlé. Et comme je vous le disais, de mutualiser les espaces, parce que la pluie, elle tombe pas tout le temps, toute l'année. Les périodes de sécheresse vont être de plus en plus longues. Donc, ces zones qui seront en eau une certaine partie de l'année seront à sec une autre partie de l'année et pourront servir à d'autres usages. Pourront par exemple être un lieu de rencontre d'un quartier. On peut installer du mobilier urbain pour des pique-niques dans ces secteurs-là. Voilà, donc il y a vraiment une réflexion à porter sur ces zones d'aménagement qui vont permettre à ces eaux de pluie d'être gérées au plus près de là où elles tombent, mais aussi servir à l'ensemble de la population qui est à proximité de ces espaces pour être utilisées d'une autre façon et qui va permettre de créer des lieux, comme on a pu l'évoquer tout à l'heure, des lieux de rencontre, d'échange et de créer du lien entre les personnes dans ces quartiers-là. Je vous ai mis 4 photos donc de 2 projets qui ont déjà été mis en œuvre dans 2 secteurs différents. Donc il y a les photos du bas, c'est un avant-après sur le secteur d'Aurillac, où on peut voir une zone de parking totalement goudronnée, imperméabilisée. Et donc c'est la ville d'Aurillac qui s'est associée avec Cantal Habitat pour réfléchir à comment améliorer le quartier et comment essayer de rendre cette zone qui est très clairement une zone de chaleur imperméable, qui était problématique principalement pour une question de pollution. C'était un réseau unitaire, donc des envois de pollution très très importantes en période de pluie directement dans le milieu. Et donc ils ont réfléchi à désimperméabiliser donc ce parking-là en créant des noues, en créant des zones de parking perméables et donc qui permettent à l'eau de s'infiltrer et de créer donc des espaces verts. Là, on voit pas encore forcément sur la photo après, c'était encore en phase de finalisation de travaux. Mais du coup, voilà, il y a des arbres nouveaux qui ont été implantés. Donc c'est vraiment une zone qui était nue et qui a vocation à vraiment avoir une végétation qui va se développer, qui va pouvoir faire de l'ombrage, créer de la fraîcheur. Sur les 2 photos du haut, c'est à portée sur Garonne, le quartier Renoir. Donc là, la problématique première, c'était l'inondation du quartier en cas de forte pluie. Le réseau en fait pluvial était totalement sous-dimensionné et donc ce quartier était inondé dès que les pluies étaient trop importantes. Et donc la collectivité a réfléchi à aménager ce quartier autrement et donc à réutiliser des espaces verts qui existaient et à créer de nouveaux espaces verts en créant des bassins de rétention et des noues qui permettent aux pluies d'être stockées dans ces bassins et ces noues et de ne pas aller engorger le réseau pluvial ou pas aller inonder les maisons qui sont situées à côté. Et c'est un cas typiquement où les bassins de rétention, voilà, il y a eu des plantations dedans, il y a du mobilier urbain qui est installé et les gens viennent en période estivale quand il ne pleut pas, quand le terrain est sec, viennent pique-niquer, se retrouvent et s'installent de façon agréable à l'ombre et dans un espace vert à proximité de chez eux. Des exemples comme ça, on en a de plus en plus sur le bassin Adour-Garonne. Donc la désimperméabilisation, la gestion intégrée des eaux pluviales sont des thématiques assez récentes, mais qui sont vraiment en forte augmentation. Donc on n'a pas forcément encore énormément de recul, mais on voit qu'effectivement, dans les secteurs où ça a été mis en œuvre, on voit le bénéfice à la fois pour ce qui est nous notre sujet premier, la gestion de l'eau, mais aussi pour le côté bénéfique et agréable, en tout cas des secteurs qui sont réaménagés. Et pour vous dire aussi que du coup l'agence de l'eau finance ce type d'action-là et qu'il y a aussi actuellement le fonds vert qui permet d'avoir des financements pour ce type d'action. Et donc c'est vraiment des actions qui sont nécessaires pour s'adapter aux effets du changement climatique et on peut dès aujourd'hui engager les réflexions et mettre en œuvre ce type d'action.
Je vais laisser la place du coup aux interventions.
Non, 2 questions. La première sur la désimperméabilisation. Vous remerciez l'agence Adour-Garonne parce que sur l'agence de l'eau, on mène pas mal de partenariats, je pense à la gare de Carbonne où on a un gros projet. Donc les élus locaux que nous sommes, on y travaille beaucoup actuellement, on y est très sensible. Mais j'avais une petite question sur la désimperméabilisation, puisqu'on parle quand même du SCOT en fond. Est-ce que cela compte comme une désartificialisation des sols? Ça c'est une première question, mais qui est quand même importante. La deuxième, c'est la gestion des eaux pluviales. Alors c'est un peu plus global ma question, ça concerne aussi les cours d'eau. Et les petits ruisseaux que nous avons ici, on est en zone quand même assez rurale et on a pas mal de problèmes. Nous, ici à Carbonne, aujourd'hui, la coquère, elle inonde des champs en gage. Ça touche aux moustiques, monsieur, je sais que ça va vous faire plaisir. Mais nous, à Carbonne, on a énormément de moustiques, mais il n'y a pas qu'ici. Il y a plein d'endroits, on est en bord de Garonne, tous dans des méandres. Et c'est un gros problème, ces eaux qui stagnent. L'année dernière, on a eu des inondations. On a eu 2 mois, des champs entiers, en limite centre-ville, inondés. Et donc on a eu un été rempli de moustiques. Donc comment on peut gérer ces ruisseaux? Parce qu'aujourd'hui, Il y a quand même eu un désengagement de l'État vers les communautés de communes. Mon cher Pierre, je sais que tu t'occupes de cela à la communauté de communes. Mais aujourd'hui, nous, pour faire curer le ruisseau, il faut que des techniciens viennent, des syndicats de rivière, mais on ne sait pas qui va payer, le temps qu'on y réfléchisse. Mais je le mets sur la table volontairement, parce que c'est un vrai sujet. Moi, je veux bien gérer les eaux pluviales. Hein. On va tous donner notre part, il n'y a pas de problème. On va les gérer sur le dessus, superficiellement. Mais qu'est-ce qu'on fait des ruisseaux où on ne peut rien faire? On ne peut pas les curer. Moi, je suis sensible aussi à revitaliser nos communes. Hein. Donc, on ne peut pas trop curer, parce que certains diront qu'on arrache de la végétation, on perturbe la biodiversité. Moi, je veux bien. Mais après, quand ça tombe, ça tombe. Hein. Et l'eau, elle est là, elle déborde, elle peut pas s'évacuer. La Garonne, après, elle est vide. Enfin, je caricature, mais c'est quand même pas faux.
Bastien Haut, donc élu à Carbonne et vice-président de la communauté de communes du Volvestre. J'avais une question, alors peut-être un peu naïve, sur la récupération des eaux de pluie par divers acteurs, hein, que ce soit des entreprises, des collectivités ou des particuliers. Parce que l'être humain a tendance à avoir des bonnes idées, et quand ils sont faits à grande échelle, elles s'avèrent moins bonnes. Est-ce qu'il y a un risque d'effet rebond si c'est déployé à trop grande échelle, qu'on peut y aller sereinement là-dedans?
Je réponds aux deux premières questions. Du coup, sur la partie cours d'eau, effectivement, le curage de cours d'eau est soumis à la loi sur l'eau. Donc là, voilà, il faut aller voir avec la police de l'eau. Après, les problématiques de cours d'eau, effectivement, il y a les syndicats de bassins versants qui sont sur les territoires, qui sont là pour faire les études nécessaires pour comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des soucis sur les cours d'eau. Et généralement, ce sont des problématiques liées au bassin versant, à l'aménagement du bassin versant. Et il y a des solutions d'aménagement qui peuvent être trouvées plus en amont pour pallier aux difficultés. Après, je ne connais pas le cas particulier voilà, de ce territoire-là, mais en règle générale, voilà, c'est généralement en travaillant sur l'ensemble du bassin versant du cours d'eau qu'on trouve les solutions qui sont adaptées pour résoudre les problématiques d'inondation, mais qui aussi permettent au cours d'eau de fonctionner mieux. Et à la biodiversité de s'exprimer aussi sans forcément passer par un curage du cours d'eau. Et pour répondre à la question des eaux pluviales, alors la gestion intégrée des eaux pluviales, c'est bien permettre à l'eau pluviale de s'infiltrer. Donc il n'y a pas de question de réutilisation de cette eau pluviale. Après, il y a effectivement des projets d'utiliser l'eau pluviale. Alors on a tout type de projets qui se développent, donc ça peut être sur des nouvelles constructions d'utiliser les eaux pluviales pour alimenter les eaux de toilette par exemple, ou enfin voilà, des circuits très courts en local. On a aussi l'utilisation d'eau pluviale pour arroser des stades, pour voilà. Donc cette utilisation de l'eau est toujours réfléchie en substitution d'un prélèvement qui a lieu dans le milieu naturel, et donc c'est retirer un prélèvement du milieu naturel et utiliser l'eau pluviale qui est disponible à un moment donné pour un usage X ou Y. Donc il faut toujours quand même bien le réfléchir, effectivement, parce que cette eau pluviale qui est utilisée, elle ne s'infiltre pas au moment où elle tombe, mais du coup de façon décalée. Et si il y a effectivement trop de projets de ce type sur un territoire qui se mettent en place, ça peut poser des difficultés en termes de recharge de nappe, par exemple, ou de fonctionnement hydrologique de tout un hydrosystème. Donc c'est effectivement des solutions qui sont quand même intéressantes parce qu'elles permettent de substituer des prélèvements dans un cours d'eau, mais qui nécessitent d'avoir une approche globale sur un bassin versant pour être sûr qu'on ne dégrade pas le fonctionnement de l'hydrosystème.
Oui, Jacques Doumer, CODEF. Il n'y a pas de règlement particulier par rapport à ce stockage de l'eau, parce qu'effectivement, si on systématise le captage des eaux de toiture, par exemple, ça peut poser à un moment donné effectivement un problème. Est-ce qu'en fait, il y a une réglementation, une limite? Est-ce que les collectivités ont le droit d'imposer ou d'interdire effectivement ce genre de bassin ou de captage si ça devient trop important? Et quand est-ce qu'on juge que c'est trop important?
Aujourd'hui, la gestion intégrée des eaux pluviales, du coup, ce n'est pas un stockage. C'est permettre à l'eau d'avoir le temps de s'infiltrer. Donc l'eau, effectivement, elle est pendant une certaine période dans le bassin, mais elle va juste s'infiltrer. Elle n'est pas réutilisée derrière. Donc là, il n'y a pas de réglementation en termes de quantité qu'on va gérer. Sur la réutilisation des eaux, par contre, c'est assez nouveau, on va dire, dans la mise en œuvre. Et donc, il y a quand même beaucoup d'étapes réglementaires à passer pour les projets, pour qu'ils soient validés, qu'ils soient autorisés. Donc, à ma connaissance, il n'y a pas aujourd'hui de réglementation qui dit on a droit de récupérer tant de pourcents de pluie. Chaque projet est étudié individuellement pour s'assurer qu'il est cohérent et qu'il n'a pas d'impact négatif sur le bassin versant.
En ce moment, c'est la mode. Hein. Vous voulez acheter un récupérateur d'eau, vous avez 3 mois d'attente, hein, tellement que ça se vend. Donc tout le monde est en train d'en installer un. Et effectivement, l'effet de masse, donc, je trouve la question hyper intéressante, je n'y ai pas pensé dans ce sens-là. Donc l'effet de masse, est-ce que ça donne un risque à terme? Effectivement, cet effet de mode, est-ce que, parce que si tous les citoyens qui ont un petit jardin mettent un récupérateur d'eau, est-ce qu'à la fin, il n'y a pas un effet de masse? C'est tout. Mais la question est...
Ah oui, c'est une vraie question. C'est une vraie question qui a déjà été soulevée. Effectivement, après, le récupérateur d'eau de pluie, même si effectivement chaque citoyen s'en installe un, on est quand même sur des volumes assez réduits par rapport aux quantités de pluie qui peuvent tomber. Après, je pense que voilà, quand on est sur le récupérateur d'eau de pluie individuel, même s'il y a un développement très très important effectivement de ces récupérateurs d'eau de pluie, je suis pas sûre que ça ait un impact aujourd'hui vraiment réel. Après, c'est si on commence à rentrer dans chaque nouveau projet immobilier alimente ses eaux de toilette avec les eaux de pluie, donc récupère la totalité des eaux de pluie, et que chaque logement collectif comme ça rentre dans ce système-là. Effectivement, là, il y a à se poser la question de l'impact effectivement sur l'hydrosystème si on démultiplie cette récupération des eaux de pluie. Aujourd'hui, voilà, je pense qu'on n'a pas le recul nécessaire pour dire quel impact, quelle quantité de pluie on peut intercepter et comment est-ce que ça se traduit.
Je vous remercie beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Sinon, je vous propose de passer, puisque une des questions, c'était la désimperméabilisation, et justement, c'est le sujet suivant. Donc,